Joseph Balsamo, tome 4, chapitre 1er, les deux gouttes d'eau de Monsieur de Richelieu, la fuite, la double vue, catalepsie. Le duc de Richelieu sortit à 4h30 de la maison de la rue Saint-Claude. Ce qu'il était venu faire chez Balsamo va s'expliquer tout naturellement dans ce qu'on va lire. Monsieur de Tavernay avait dîné chez sa fille. Madame la Dauphine, ce jour-là, avait donné congé entier à André pour que celle-ci pût recevoir son père chez elle. On en était au dessert quand Monsieur de Richelieu entra. Toujours porteur de bonnes nouvelles, il venait annoncer à son ami que le roi avait déclaré, le matin même, que ce n'était plus une compagnie qu'il comptait donner à Philippe, mais un régiment. Tavernay manifesta bruyamment sa joie, André remercia le maréchal avec effusion. La conversation fut tout ce qu'elle devait être après ce qui s'était passé. Richelieu parla toujours du roi, André toujours de son frère, Tavernay toujours d'André. Celui-ci annonça dans la conversation qu'elle était libre de tout service près de Madame la Dauphine, que son Altesse royale recevait deux princes allemands de sa famille, et que pour passer quelques heures de liberté qui lui rappelassent la cour de Vienne, Marie-Antoinette n'avait voulu avoir aucun service près d'elle, pas même celui de sa dame d'honneur. Ce qui avait fait si fort frissonner Madame de Noailles qu'elle était allée se jeter aux genoux du roi. Tavernay était, disait-il, charmé de cette liberté d'André pour causer avec elle de tant de choses intéressant leur fortune et leur renommée. Sur cette observation, Richelieu proposa de se retirer pour laisser le père et la fille dans une intimité plus grande encore, ce que Mademoiselle de Tavernay ne voulut point accepter. Richelieu demeura donc. Richelieu était dans sa veine de moralité. Il peignit fort éloquemment le malheur dans lequel était tombée la noblesse de France, forcée de subir le joug ignominieux de ses favorites de hasard, de ses reines de contrebande, au lieu d'avoir à encenser les favorites d'autrefois presque aussi nobles que leurs augustes amants, ces femmes qui régnaient sur le prince par leur beauté et par leur amour, et sur les sujets par leur naissance, leur esprit et leur patriotisme loyal et pur. André fut surprise de rencontrer tant d'analogies entre les paroles de Richelieu et celles que le baron de Tavernay lui faisait entendre depuis quelques jours. Richelieu se lança ensuite dans une théorie de la vertu, théorie si spirituelle, si païenne, si française, que Mademoiselle de Tavernay fut forcée de convenir qu'elle n'était pas vertueuse le moins du monde d'après les théories de Monsieur de Richelieu, et que la véritable vertu, comme l'entendait Maréchal, était celle de Madame de Châteauroux, de Mademoiselle de Lavallière et de Mademoiselle de Fosseuse. De déduction en déduction, de preuves en preuves, Richelieu devint si clair qu'André n'y comprit plus rien. La conversation demeura sur ce pied jusqu'à 7h du soir à peu près. À 7h du soir, le maréchal se leva, il était forcé, disait-il, d'aller faire sa cour au roi à Versailles. En allant et en venant par la chambre pour prendre son chapeau, il rencontra Nicole, qui avait toujours quelque chose à faire là où se trouvait Monsieur de Richelieu. « Petite, lui dit-il en lui frappant sur l'épaule, tu me reconduiras. Je veux que tu portes un bouquet que Madame de Noailles a fait cueillir dans ses parterres et qu'elle envoie à Madame la Comtesse d'Egmont. » Nicole s'inclina comme les villageoises des opéras comiques de Monsieur Rousseau. Sur quoi le maréchal prit congé du père et de la fille, échangea avec Tavernay un regard significatif, fit une révérence de jeune homme à André et sortit. Si le lecteur veut nous le permettre, nous laisserons le baron et André causer de la nouvelle faveur accordée à Philippe et nous suivrons le maréchal. Ce nous sera un moyen de savoir ce qu'il était allé faire rue Saint-Claude, où il avait pris pied, on se le rappelle, dans un si terrible moment. D'ailleurs, la morale du baron enchérissait encore sur celle de son ami le maréchal et pourrait bien effaroucher les oreilles qui, moins pures que celles d'André, y comprendraient quelque chose. Richelieu descendit donc l'escalier en s'appuyant sur l'épaule de Nicole, et dès qu'il fut dans le parterre avec elle, « Ah ça, petite, » dit-il en s'arrêtant et en la regardant en face, « nous avons donc un amant ?»« Moi, monsieur le maréchal ?» s'écria Nicole, toute rougissante et faisant un pas en arrière. « Ah, fit celui-ci, n'es-tu point Nicole Leguet, par hasard ?»« Si fait, monsieur le maréchal. » »« Eh bien, Nicole Leguet a un amant. »« Oh, par exemple ?» Oui, ma foi, un certain drôle assez bien tourné, qu'elle recevait rue Coq-Héron et qui l'a suivi aux environs de Versailles. Monsieur le duc, je vous jure, une sorte d'exempt qu'on appelle, veux-tu que je te le dise, petite, comment on appelle l'amant de mademoiselle Nicole Leguet? Le dernier espoir de Nicole était que le maréchal ignorât le nom de ce bienheureux mortel. Ma foi, dites, monsieur le maréchal, fit-elle, puisque vous êtes en train. Qui s'appelle monsieur de Beausire, répéta le maréchal, et qui, en vérité, ne dément pas trop son nom. Nicole joignit les mains avec une affectation de pruderie qui n'imposa pas le moins du monde au vieux maréchal. Il paraît, dit-il, que nous lui donnons des rendez-vous à Trianon. Peste, dans un château royal, c'est grave, on est chassé pour ces sortes de fredelles, ma belle enfant, et monsieur de Sartine envoie toutes les filles chassées des châteaux royaux à la salpêtrière. Nicole commença à s'inquiéter. « Monseigneur, dit-elle, je vous jure que si monsieur de Beausire se vante d'être mon amant, c'est un fat et un vilain, car en vérité je suis bien innocente. Je ne dis pas non, dit Richelieu, mais as-tu donné, oui ou non, des rendez-vous? Monsieur le duc, un rendez-vous n'est pas une preuve. As-tu donné, oui ou non, des rendez-vous? Réponds. « Monseigneur, tu en as donné, c'est très bien, je ne te blâme pas, ma chère enfant. D'ailleurs, j'aime les jolies filles qui font circuler leur beauté. J'ai toujours de mon mieux aidé à la circulation. Seulement, comme ton ami, comme ton protecteur, je t'avertis charitablement. « Mais on m'a donc vu ?» demanda Nicole. « Apparemment, puisque je le sais. »« Monseigneur, dit Nicole d'un ton résolu, on ne m'a pas vu, c'est impossible. »« Je n'en sais rien, mais le bruit en court, cela donne un assez vilain relief à ta maîtresse, et tu comprends que, comme je suis encore plus l'ami de la famille Tavernet que de la famille Leguet, il est de mon devoir de dire deux mots de ce qui se passe au baron. »« Ah, monseigneur !» s'écria Nicole, effrayée de la tournure que prenait la conversation. « Vous me perdez, même innocente, je serai chassée rien que sur le soupçon. » « Eh bien, pauvre enfant, tu seras chassé alors, car, à l'heure qu'il est, je ne sais plus quel mauvais esprit, ayant trouvé quelque chose à redire à ces rendez-vous, tout innocents qu'ils sont, a dû prévenir Madame de Noailles. »« Madame de Noailles, grand Dieu !»« Eh oui, tu vois que la chose devient pressante. » Nicole frappa ses deux mains l'une contre l'autre avec désespoir. C'est malheureux, je le sais bien, dit Richelieu, mais que diable veux-tu y faire? Vous qui vous disiez tout à l'heure mon protecteur, vous qui m'aviez prouvé que vous l'étiez, vous ne pouvez plus me protéger? Demanda Nicole avec la ruse câline qui eût mise une femme de 30 ans. Si, par Dieu, je le puis. Eh bien, monseigneur. Oui, mais je ne veux pas. Oh, monsieur le duc. « Oui, tu es gentil, je sais cela. Tes beaux yeux me disent toutes sortes de choses, ma pauvre Nicole. Je ne comprends plus le langage des beaux yeux. Jadis, je t'eusse proposé de te donner asile au pavillon de Hanovre, mais aujourd'hui, à quoi bon? On n'en jaserait même plus. » « Mais vous m'y avez cependant déjà emmené au pavillon de Hanovre, » dit Nicole avec dépit. Ah, que tu as mauvaise grâce, Nicole, de me reprocher de t'avoir emmené à mon hôtel quand j'ai fait cela pour rendre service. Car enfin, avoue que sans l'eau de Monsieur Rafté qui a fait de toi une charmante brune, tu n'entrais pas au Trianon, ce qui au reste valait mieux peut-être que d'en être chassé. Mais aussi, pourquoi diable donner comme cela des rendez-vous à Monsieur de Beaucire et à la grille des écuries encore? Si, vous savez même cela, dit Nicole, qui vit qu'il fallait changer de tactique et se mettre à la discrétion entière du maréchal. Eh, parbleu, tu vois bien que je le sais, et madame de Noailles aussi. Tiens, ce soir encore tu avais rendez-vous. C'est vrai, monsieur le duc, mais foi, Nicole, je n'irai pas. Sans doute, tu es prévenu, mais monsieur de Beaucire ira, lui, qui n'est pas prévenu, et on le prendra. Alors, comme tout naturellement, il ne voudra pas passer pour un voleur qu'on pend ou un espion qu'on bastonne, il aimera mieux dire, d'autant plus que la chose n'est pas désagréable à avouer, « Laissez-moi, je suis l'amant de la petite Nicole. » Monsieur le duc, je vais le faire prévenir. Impossible, pauvre enfant. Et par qui, je te le demande? Par celui qui t'a dénoncé, peut-être? Hélas, c'est vrai, dit Nicole, jouant le désespoir. Comme c'est beau, le remords, s'écria Richelieu. Nicole se cacha le visage dans ses deux mains, en observant bien de laisser passer assez de jours entre ses doigts pour ne pas perdre un geste, un regard de Richelieu. « Tu es adorable en vérité, » dit le duc à qui aucune de ces petites roueries féminines n'échappait. « Que n'ai-je 50 ans de moins? Mais n'importe pas le semble, Nicole, je veux te tirer de là. » « Oh, monsieur le duc, si vous faites ce que vous dites, ma reconnaissance... »« Je n'en veux pas, Nicole, je te rendrai service sans intérêt, au contraire. » »« Ah, c'est bien beau à vous, monseigneur, et du fond de mon cœur, je vous en remercie. » Ne me remercie pas encore, tu ne sais rien, que diable, attends que tu saches. Tout me sera bon, monsieur le duc, pourvu que mademoiselle André ne me chasse pas. Ah, mais tu tiens donc énormément à rester au Trianon, par-dessus tout, monsieur le duc. Eh bien, Nicole, ma jolie fille, reste ce premier point de dessus tes tablettes. Mais si je ne suis pas découverte cependant, monsieur le duc... « Découverte, oui ou non, tu ne partiras pas moins. »« Pourquoi cela ?»« Je vais te le dire, parce que si tu es découverte par madame de Noailles, il n'y a pas de crédit, même celui du roi qui puisse te sauver. »« Ah, si je pouvais voir le roi !»« Eh bien, petite, en vérité, il ne manquerait plus que cela. » « Ensuite, parce que si tu n'es pas découverte, c'est moi qui te ferai partir. »« Vous ?» Sur le champ. En vérité, monsieur le maréchal, je n'y comprends rien. C'est comme j'ai l'avantage de te le dire. Et voilà votre protection. Si tu n'en veux pas, il est encore. Dis un mot, Nicole. Aussi fait, monsieur le duc, je la veux, au contraire. Je te l'accorde. Eh bien, je ferai donc ceci. Écoute. Parlez, monseigneur. « Au lieu de te laisser chasser, emprisonné, je te ferai libre et riche. »«
Libre et riche ?»«
Oui. »«
Et que faut-il faire pour devenir libre et riche ? Dites vite, monsieur le maréchal. »«
Presque rien. »«
Mais encore, ce que je vais te prescrire, est-ce bien difficile ? » ?»«
Une besogne d'enfant. »
Ainsi, dit Nicole, il y a quelque chose à faire.
Madame, tu sais la devise de ce monde, Nicole, rien pour rien.
Et ce qu'il y a à faire, est-ce pour moi, est-ce pour vous?
Le duc regarda Nicole.
Tu Dieu, dit-il, la petite masse, qu'est-elle rouée?
Enfin, achevez, monsieur le duc.
Eh bien, c'est pour toi, répondit-il bravement.
« Ah !» dit Nicole, qui déjà, comprenant que le maréchal avait besoin d'elle, ne le craignait plus, et dont l'ingénieuse cervelle fonctionnait pour découvrir la vérité au milieu des détours dont, par habitude, l'enveloppait son interlocuteur.
« Que ferais-je donc pour moi, monsieur le duc ?»«
Voici, monsieur de Beaucire vient à 7h30. »«
Oui, monsieur le maréchal, c'est son heure. »
Il est 7h10.
C'est encore vrai. Si je veux, il sera pris.
Oui, mais vous ne voulez pas.
Non, tu iras le trouver et tu lui diras.
Je lui dirai.
Mais d'abord, l'aimes-tu, ce garçon, Nicole?
Puisque je lui donne des rendez-vous.
Ce n'est pas une raison. Tu peux vouloir l'épouser. Les femmes de si étranges caprices.
Nicole partit d'un éclat de rire.
Moi, l'épouser, dit-elle. Richelieu demeura stupéfait. Il n'avait même pas à la cour rencontré beaucoup de femmes de cette force-là.
Eh bien, soit tu ne veux pas l'épouser, mais tu aimes, alors tant mieux.
Soit j'aime Monsieur de Beausire, mettons cela, monseigneur, et passons.
Peste, quelle enjambeuse!
Sans doute, vous comprenez ce qui m'intéresse.
Eh bien,
mais c'est de savoir ce qui me reste à faire.
Nous disons d'abord que, puisque tu l'aimes, tu fuiras avec lui.
Dame, s'il vous voulait absolument, il faudra bien.
Oh, je ne veux rien, moi.
Un moment, petite.
Nicole vit qu'elle allait trop vite et qu'elle ne tenait encore ni le secret ni l'argent de son rude antagoniste. Elle plia donc, sauf plus tard à se relever.
Monseigneur, dit-elle, j'attends vos ordres.
Eh bien, tu iras trouver Monsieur de Beausire et tu lui diras « Nous sommes découverts, mais j'ai un protecteur qui nous sauve, vous de Saint-Lazare, moi de la Salpêtrière. Partons !»
Nicole regarda Richelieu.
« Partons, » répéta-t-elle.
Richelieu comprit ce regard si fin et si expressif.
« Parbleu, dit-il, c'est entendu, et je pourvoirai aux frais du voyage. »
Nicole ne demanda pas d'autre éclaircissement. Il fallait bien qu'elle sût tout, puisqu'on la payait. Le maréchal sentit ce pas fait par Nicole et se hâta de son côté de dire tout ce qu'il y avait à dire, comme on se hâte de payer quand on a perdu pour n'avoir plus le désagrément de payer.
« Sais-tu à quoi tu penses, Nicole ? » dit-il.
« Ma foi, non, répondit la jeune fille, mais vous qui savez tant de choses, monsieur le maréchal, je parie que vous l'avez deviné. »
« Nicole, dit-il, tu songes que si tu fuis, ta maîtresse pourra, ayant besoin de toi, par hasard t'appeler dans la nuit et, ne te trouvant pas, donner l'alarme, ce qui t'exposerait à être rattrapé.
Non, dit Nicole, je ne pensais point à cela, parce que, toute réflexion faite, voyez-vous, monsieur le maréchal, j'aime mieux rester ici.
Mais si l'on prend monsieur de Beausire,
eh bien, on le prendra.
Mais s'il avoue,
il avouera.
Ah, fit Richelieu avec un commencement d'inquiétude, tu seras perdu alors.
Non, car mademoiselle André est bonne, et comme elle m'aime, au fond, elle parlera de moi au roi, et si l'on fait quelque chose à monsieur de Beausire, on ne me fera rien à moi.
Le maréchal se mordit les lèvres.
« Et moi, Nicole, reprit-il, je te dis que tu es une sotte, que mademoiselle André n'est pas bien avec le roi, et que je vais te faire enlever tout à l'heure si tu ne m'écoutes pas comme je veux que tu m'écoutes. Entends-tu, petite vipère ?»«
Oh, monseigneur, je n'ai la tête ni plate ni connue. J'écoute, mais je fais mes réserves. »
Bien, tu vas donc aller de ce pas ruminer ton plan de fuite avec monsieur de Beausire.
Mais comment voulez-vous que je m'expose à fuir, monsieur le maréchal, puisque vous me dites vous-même que mademoiselle peut se réveiller, me demander, m'appeler, que sais-je, toutes choses auxquelles je n'avais jamais songé d'abord, mais que vous avez prévues, vous, monseigneur, qui êtes un homme d'expérience.
Richelieu se mordit une seconde fois les lèvres, mais plus fort cette fois que la première.
« Eh bien, si j'ai pensé à cela, drôlesse, j'ai aussi pensé à prévenir l'événement. »«
Et comment empêcherez-vous que mademoiselle m'appelle ?»«
En l'empêchant de s'éveiller. »«
Bah, elle s'éveille 10 fois par nuit, impossible. »«
Elle a donc la même maladie que moi, » dit Richelieu avec calme.
« Que vous ?» répéta Nicole en riant.
« Mais sans doute, puisque je me réveille 10 fois aussi, moi seulement, je remédie à ces insomnies.
Elle fera comme moi,
et si elle ne le fait pas, tu le feras pour elle, toi. » Voyons, dit Nicole, comment cela, je vous prie, monseigneur? Que prend ta maîtresse chaque soir avant de se coucher?
Ce qu'elle prend?
Oui, c'est la mode aujourd'hui de prévenir ainsi la soif. Les uns prennent de l'orangeade ou de l'eau de limon, les autres de l'eau de mélisse, les autres. Mademoiselle ne boit le soir avant de se coucher qu'un verre d'eau pure, quelquefois sucrée et parfumée avec de la fleur de l'oranger, si ses nerfs sont malades.
Oh, merveille, dit Richelieu, c'est comme moi. Eh bien, mon remède va lui convenir parfaitement.
Comment cela? Mais sans doute, je verse une certaine goutte de certaines liqueurs dans ma boisson et je dors toute la nuit.
Nicole cherchait, rêvait à quoi pouvait aboutir cette diplomatie du maréchal.
Tu ne réponds pas, dit-il.
Mais je pense que mademoiselle n'a pas de veau trop.
Je t'en donnerai.
Ah ah, pensa Nicole, qui voyait enfin une lumière dans cette nuit.
Tu en verseras deux gouttes dans le verre de ta maîtresse. Deux gouttes, entends-tu? Pas plus, pas moins, et elle dormira, de sorte qu'elle ne t'appellera pas et que, par conséquent, tu auras le temps de fuir.
Oh, s'il n'y a que cela à faire, ce n'est point difficile.
Tu verseras donc ces deux gouttes?
Certainement. Tu me le promets?
Mais, dit Nicole, il me semble que c'est mon intérêt de les verser, et puis d'ailleurs j'enfermerai si bien mademoiselle.
Ah, non pas, dit vivement Richelieu, voilà justement ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Tu laisseras au contraire la porte de sa chambre ouverte.
Ah, fit Nicole avec une explosion tout intérieure.
Elle avait compris, Richelieu le sentit bien.
C'est tout? Demanda-t-elle.
Absolument tout. Maintenant, tu peux aller dire à ton exempt de faire ses mal.
Malheureusement, monseigneur, je n'aurai pas besoin de lui dire de prendre sa bourse.
Tu sais bien que c'est moi que cela regarde.
Oui, je me rappelle que monseigneur a eu la bonté.
Combien te faut-il? Voyons, Nicole.
Pour quoi faire? Et pour verser ces deux gouttes d'eau.
Pour verser ces deux gouttes d'eau, monseigneur, puisque vous m'assurez que je les verse dans mon intérêt, il ne serait pas juste que vous me payassiez mon intérêt, mais pour laisser la porte de mademoiselle ouverte, monseigneur, je vous préviens, il me faut une somme ronde.
Achève, dit ton chiffre.
Il me faut 20 000 francs, monseigneur.
Richelieu tressaillit.
« Nicole, tu iras loin, soupira-t-il.
Il le faudra bien, monseigneur, car je commence à croire, comme vous, que l'on courra après moi. Mais avec vos 20 000 francs, je ferai du chemin.
Va prévenir monsieur de Beaucire, Nicole, ensuite je te compterai ton argent.
Monseigneur, monsieur de Beaucire est fort incrédule, et il ne voudra pas croire ce que je lui dirai si je ne lui donne pas de preuves. »
Richelieu tira de sa poche une poignée de billets de caisse.
Voici un acompte, dit-il, et dans cette bourse il y a 100 doubles louis.
Monseigneur fera son compte et me remettra ce qu'il me redoit quand j'aurai parlé à monsieur de Beaucire.
Non, pardieu, je veux le faire tout de suite. Tu es une fille économe, Nicole, cela te portera bonheur.
Et Richelieu parfit la somme promise tant en billets de caisse qu'en louis et en demi-louis.
« Là, dit-il, est-ce bien cela ?»«
Je le crois, dit Nicole. Maintenant, monseigneur, il me manque la chose principale,
la liqueur. »«
Oui, monseigneur a sans doute un flacon.
J'ai le mien que je porte toujours sur moi. »
Nicole sourit.
Et puis, dit-elle, on ferme Trianon chaque soirée. Je n'ai pas de clé.
Mais moi, j'en ai une, en ma qualité de premier gentilhomme.
Ah, vraiment?
La voici.
Comme tout cela est heureux, dit Nicole, on dirait une enfilade de miracles. Maintenant, adieu, monsieur le duc.
Comment adieu?
Mais certainement, je ne reverrai pas monseigneur, puisque je partirai pendant le premier sommeil de mademoiselle.
C'est juste. Adieu, Nicole.
Et Nicole, en riant sous cape, disparut dans l'obscurité qui commençait à s'épaissir.
je réussis encore, dit Richelieu, mais en vérité, on dirait que la fortune commence à me trouver trop vieux et me sert à contre-cœur. J'ai été battu par cette petite, mais qu'importe si je rends les coups. Nicole était une fille consciencieuse. Elle avait reçu l'argent de monsieur de Richelieu, elle l'avait reçu d'avance, il fallait répondre à cette confiance en le gagnant. Elle avait donc couru droit à la grille, où elle était arrivée à 7h40 au lieu de 7h30. Or, monsieur de Beausire, façonné à la discipline militaire, était un homme exact. Il attendait depuis 10 minutes. Depuis 10 minutes aussi, à peu près, monsieur de Tavernay avait quitté sa fille, et monsieur de Tavernay, une fois parti, André était resté seul. Or, une fois seul, la jeune fille avait fermé ses rideaux. Gilbert regardait, ou plutôt dévorait, selon son habitude, André de sa mansarde. Seulement, il eût été difficile de dire si ses regards sur la jeune fille étincelaient d'amour ou de haine. Les rideaux tirés, Gilbert n'eut plus rien à voir. En conséquence, il regarda d'un autre côté. En regardant d'un autre côté, il aperçut le plumet de monsieur de Beausire et reconnut l'exempt qui se promenait en sifflotant un petit air pour tromper l'ennui de l'attente. Au bout de 10 minutes, c'est-à-dire à 7h40, Nicole parut. Elle échangea quelques mots avec monsieur de Beausire, lequel fit un mouvement en signe qu'il comprenait parfaitement, et s'éloigna dans la direction de l'allée creuse qui conduit au petit Trianon. De son côté, Nicole retourna sur ses pas, légère comme un oiseau. Ah, fit Gilbert, monsieur l'exempt et mademoiselle la dame de chambre ont quelque chose à dire ou à faire pour laquelle ils craignent les témoins. Bon. Gilbert n'était plus curieux au sujet de Nicole. Seulement, sentant dans la jeune fille une ennemie naturelle, il cherchait à réunir contre sa moralité une masse de preuves avec laquelle il put victorieusement repousser l'attaque si Nicole l'attaquait. Gilbert ne doutait pas que la campagne ne dût s'ouvrir d'un moment à l'autre, et en soldat prévoyant, il amassait des munitions de guerre. Un rendez-vous de Nicole avec un homme dans Trianon même, c'était une de ces armes qu'un ennemi aussi intelligent que Gilbert ne pouvait négliger de ramasser, surtout quand on avait, comme le faisait Nicole, l'imprudence de la laisser tomber à ses pieds. Gilbert voulut, en conséquence, recueillir le témoignage des oreilles pour l'ajouter à celui des yeux et saisir au vol quelques phrases bien compromettantes qu'il put victorieusement braquer sur la jeune fille au moment du combat. Il descendit donc prestement de sa mansarde, prit le couloir des cuisines et gagna le jardin par le petit escalier de la chapelle. Une fois dans le jardin, Gilbert n'avait plus rien à craindre, il en connaissait tous les retraits comme un renard connaît son fourré. Il se glissa donc sous tilleul, puis le long de l'espalier, puis il atteignit un massif qui s'élevait à 20 pas de l'endroit où il comptait retrouver Nicole. Nicole y était en effet. À peine Gilbert était-il installé dans son massif qu'un bruit étrange parvint à son oreille. C'était le bruit de l'or sur la pierre, c'était ce retentissement métallique dont rien, sinon la réalité, ne peut donner une idée juste. Gilbert se glissa comme un serpent jusqu'au mur en terrasse surmonté d'une haie de lilas, laquelle au mois de mai répandait son parfum et secouait ses fleurs sur les passants qui longeaient le mur de cette allée creuse qui sépare le grand Trianon du petit. Arrivé à ce point, les regards de Gilbert, habitués à l'obscurité, virent Nicole qui vidait sur une pierre en deçà de la grille et prudemment placée hors de la portée de la main de monsieur de Beausire la bourse donnée par monsieur de Richelieu. Les gros louis en ruisselaient, bondissant et reluisant, tandis que monsieur de Beausire, l'œil allumé et la main tremblante, regardait attentivement Nicole et les louis, sans comprendre comment l'une possédait les autres. Nicole parla. Plus d'une fois, dit-elle, vous m'avez proposé de m'enlever, mon cher monsieur de Beausire. De vous épouser même, s'écria l'exempt tout enthousiasmé. Or, quant à ce dernier point, mon cher monsieur, dit la jeune fille, nous le discuterons plus tard. Pour le moment, fuir le principal. Pouvons-nous fuir dans 2 heures ?
Dans 10 minutes, si vous voulez.
Non pas, j'ai quelque chose à faire auparavant, et ce que j'ai à faire demande 2 heures.
Dans 2 heures comme dans 10 minutes, je suis à vos ordres, tendre ami.
Bien, prenez 50 louis.
La jeune fille compta 50 louis et les passa par la grille à monsieur de Beausire, lequel, sans les compter, lui les engouffra dans la poche de sa veste.
« Et dans 1 heure et demie, continua-t-elle, soyez ici avec un carrosse. »«
Mais, objecta Beausire,
bon, si nous ne voulons pas, prenons que rien n'est convenu entre nous et rendez-moi mes 50 louis. »«
Je ne recule pas, cher Nicole, seulement je crains l'avenir. »«
Pour qui ?»«
Pour vous. »«
Pour moi ?»
Oui, les 50 louis disparus, ils finiront par disparaître. Vous allez vous trouver à plaindre, vous allez regretter Trianon, vous allez...
Oh, comme vous êtes délicat, cher monsieur de Beausire.
Allons, allons, ne craignez rien, je ne suis pas de ces femmes que l'on rend malheureuses, moi.
N'ayez donc pas de scrupules. D'ailleurs, après ces 50 louis, nous verrons.
Et Nicole fit sonner les 50 autres louis restés dans la bourse. Les yeux de Beausire étaient phosphorescents.
« Oh, pour vous, dit-il, je me jetterai dans un four brûlant. »«
Oh là là, on ne vous en demande pas tant, monsieur de Beausire. Ainsi, c'est convenu, dans 1 heure et demie le carrosse, dans 2 heures la fuite. »
« C'est convenu !» s'écria Beausire en saisissant la main de Nicole et en l'attirant pour la baiser à travers la grille.
« Silence donc !» dit Nicole. « Êtes-vous fou ?»«
Non, je suis amoureux. »
fit Nicole. « Vous ne me croyez pas, cher cœur ?»«
Suffit, je vous crois. Ayez de bons chevaux, surtout. »«
Oh oui !»
Ils se séparèrent.
Mais au bout d'une seconde, Beausire se retourna, tout effaré.
« Psst, psst » fit-il.
« Eh bien quoi ?» demanda Nicole, d'assez loin déjà, et voilant sa bouche avec sa main, afin de faire porter sans explosion la voix à la distance voulue.
« Et la grille ?» demanda Beausire. « Vous passerez donc par-dessus ?»
« Il est stupide, » murmura Nicole, qui, en ce moment, n'était qu'à 10 pas de Gilbert.
« Et puis, plus haut, j'ai la clé !» lui dit-elle.
Beausire poussa un « Ah !» plein d'admiration, et s'enfuit pour tout de bon cette fois. Nicole s'en revint, tête baissée et jambes alertes, près de sa maîtresse. Gilbert, demeuré seul, se posa les 4 questions suivantes. Pourquoi Nicole s'enfuit-elle avec Beausire qu'elle n'aime pas? Pourquoi Nicole a-t-elle en sa possession une si forte somme d'argent? Pourquoi Nicole a-t-elle la clé de la grille? Pourquoi Nicole, pouvant fuir tout de suite, retourne-t-elle auprès d'André? Gilbert trouvait bien une réponse à cette question. Pourquoi Nicole a-t-elle de l'argent? Mais il n'en trouvait pas d'autre. Aussi, à cette négation de sa perspicacité, sa curiosité naturelle ou sa défiance acquise, comme on voudra, fut si puissamment surexcitée qu'il décida de passer, si froide qu'elle fût, la nuit en plein air, sous les arbres humides, pour attendre le dénouement de cette scène dont il venait de voir le commencement. André avait reconduit son père jusqu'aux barrières du Grand Trianon. Elle revenait, seule et pensive, quand Nicole déboucha, toute courante, de l'allée qui conduisait à la fameuse grille où elle venait de prendre toutes ses mesures avec monsieur de Beausire. Nicole s'arrêta en apercevant sa maîtresse, et sur un signe que lui fit André, elle monta derrière elle, elle la suivit vers sa chambre. Il pouvait en ce moment être 8 heures et demie du soir. La nuit était venue plus prompte et plus épaisse que d'habitude parce qu'un grand nuage noir courant du sud au nord avait envahi tout le ciel de sorte qu'au-delà de Versailles, par-dessus les grands bois, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on voyait le lugubre linceul envelopper peu à peu toutes les étoiles étincelant un instant auparavant sur leur coupole d'azur.
Un petit vent lourd et bas rasait le sol, envoyant des bouffées ardentes aux fleurs altérées qui courbaient la tête comme pour implorer du ciel l'aumône de la pluie ou de la rosée. Cette menace de l'atmosphère n'avait aucunement accéléré la marche d'André. Au contraire, la jeune fille, triste et profondément rêveuse, mettait comme à regret le pied sur chaque marche de l'escalier qui conduisait à sa chambre, et elle s'arrêtait à chaque fenêtre pour regarder le ciel, si bien en harmonie avec sa tristesse, et retarder ainsi sa rentrée dans le petit appartement. Nicole impatiente, Nicole dépitée, Nicole qui craignait que quelque fantaisie de sa maîtresse ne la conduisît au-delà de l'heure, grommelait tout bas ces sortes d'imprécations que les valets n'épargnent jamais aux maîtres assez imprudents pour se permettre de satisfaire un caprice aux dépens des caprices de leurs valets. Enfin, André poussa la porte de sa chambre et, tombant plutôt qu'elle ne s'assit sur un fauteuil, commanda doucement à Nicole d'entrebâiller la fenêtre qui donnait sur la cour. Nicole obéit, puis, revenant à sa maîtresse avec cet air d'intérêt que la flatteuse savait si bien prendre, « J'ai peur que mademoiselle ne soit un peu malade ce soir, dit-elle. Mademoiselle a les yeux rouges et gonflés, brillants néanmoins. Je crois que mademoiselle aurait grand besoin de repos. »« Tu crois, Nicole ?» dit André, qui n'avait pas écouté, et elle étendit nonchalamment les pieds sur un carreau de tapisserie. Nicole accepta cette pose pour un ordre de déshabiller sa maîtresse et se mit à détacher les rubans et les fleurs de sa coiffure, espèce d'édifice que la démolisseuse la plus habile ne jetait point bas avant un bon quart d'heure. André, pendant tout ce travail, ne souffla pas un seul mot. Nicole, laissée à son libre arbitre, hacha, comme on dit, la besogne, et, sans faire crier André, tant sa préoccupation était grande, lui tira tout à l'aise les cheveux. La toilette de nuit terminée, André donna ses ordres pour le lendemain. Il s'agissait d'aller dès le matin à Versailles chercher quelques livres que Philippe devait avoir fait transporter pour sa sœur. Il y avait en outre à prévenir l'accordeur de se rendre à Trianon pour mettre le clavecin en état. Nicole répondit tranquillement que si on ne la réveillait point la nuit, elle se lèverait de bonne heure et qu'avant le réveil de mademoiselle, toutes les commissions seraient faites. « Demain aussi j'écrirai, » continua André, se parlant à elle-même. « Oui, j'écrirai à Philippe, cela m'allégera un peu. » « En tout cas, » se dit Nicole tout bas, « ce n'est pas moi qui porterai la lettre. » Et à cette réflexion, la jeune fille, qui n'était pas encore perdue tout à fait, se prit à penser tristement qu'elle allait, pour la première fois, quitter cette excellente maîtresse près de laquelle s'était éveillé son esprit et son cœur. Chez elle, le souvenir d'André se liait à tant de souvenirs que, froissé celui-là, s'était secoué toute la chaîne qui remontait de ce jour au premier jour de son enfance. Tandis que ces deux enfants, si différents de condition et de caractère, pensaient ainsi, à côté l'un de l'autre, sans qu'il y eût aucune connexion dans leurs idées, le temps fuyait, et la petite horloge d'André, toujours en avance sur celle de Trianon, sonnait 9 heures. Beausire devait être au rendez-vous, et Nicole n'avait plus qu'une demi-heure pour aller rejoindre son amant. Elle acheva de déshabiller sa maîtresse aussi promptement qu'elle put, non sans laisser échapper quelques soupirs auxquels André ne fit même pas attention. Elle lui passa un long peignoir de nuit, et comme André, toujours absorbé, demeurait immobile et les yeux perdus au plafond, Nicole tira de sa poitrine le flacon de Richelieu, jeta 2 morceaux de sucre dans un verre avec de l'eau nécessaire pour les faire fondre, puis, sans hésitation et par la toute-puissance de cette volonté déjà si forte dans un cœur si jeune encore, elle versa 2 gouttes de liqueur du flacon dans cette eau qui se troubla aussitôt et prit une légère teinte d'opale qu'elle perdit ensuite peu à peu. Mademoiselle, dit alors Nicole, le verre d'eau est fait, les robes pliées, la veilleuse allumée. Vous savez qu'il faut que je me lève de bon matin, puis-je aller me coucher maintenant ? Oui, répondit distraitement André. Nicole fit la révérence, poussa un dernier soupir qui fut perdu comme les autres et ferma derrière elle la porte vitrée donnant sur la petite antichambre. Mais au lieu de rentrer chez elle, dans la petite cellule contiguë, on le sait, au corridor et éclairée sur l'antichambre d'André, elle s'enfuit légèrement, laissant pousser contre le chambranle la porte du corridor de façon à ce que les instructions de Richelieu fussent parfaitement suivi. Puis, pour ne pas éveiller l'attention des voisins, elle descendit l'escalier conduisant au jardin, sur la pointe de ses petits pieds, bondit au-delà du perron et s'en alla, tout courant, rejoindre monsieur de Beaucy à la grille. Gilbert n'avait point quitté son observatoire. Il avait entendu dire à Nicole qu'elle reviendrait dans 2 heures. Il attendait. Seulement, comme l'heure était passée depuis 10 minutes à peu près, il commença à craindre qu'elle ne revînt pas. Tout à coup, il l'aperçut, courant comme si elle eût été poursuivie. Elle s'approcha de la grille, passa à travers les barreaux la clé à Beaucir. Beaucir ouvrit la porte, Nicole s'élança de l'autre côté, la grille se referma avec un lourd grincement. Puis la clé fut jetée dans les herbes du fossé, juste au-dessous de l'endroit où était Gilbert. Le jeune homme l'entendit tomber avec un bruit mat et remarqua la place où elle était tombée. Nicole et Beaucir gagnaient du terrain pendant ce temps-là. Gilbert les écoutait s'éloigner et bientôt il perçut non pas le bruit d'un carrosse, comme l'avait demandé Nicole, mais le piétinement d'un cheval qui, après quelques moments sans doute, donnait aux récriminations de Nicole, qui eût voulu sortir en carrosse comme une duchesse, battit la terre de ses 4 pieds ferrés, lesquels bientôt retentirent sur le pavé de la route. Gilbert respira. Gilbert était libre, Gilbert était débarrassé de Nicole, c'est-à-dire de son ennemi. André restait seul. Peut-être, en s'en allant, Nicole avait-elle laissé la clé à la porte. Peut-être lui, Gilbert, pourrait-il pénétrer jusqu'à André. Cette idée fit bondir le bouillant jeune homme avec toutes les fureurs de la crainte et de l'incertitude, de la curiosité et du désir. Et suivant en sens inverse le chemin que venait de faire Nicole, il prit sa course vers le pavillon des communs. André, resté seul, était sorti peu à peu de cet engourdissement moral qui l'avait surprise, et tandis que Nicole fuyait en croupe derrière monsieur de Beaucir, elle s'était agenouillée et faisait une fervente prière pour Philippe, le seul être au monde qu'elle aima d'une affection vraie et profonde. Elle priait, absorbée dans sa confiance en Dieu. Les prières d'André ne se composaient pas d'ordinaire d'une suite de mots attachés les uns aux autres, c'était une espèce d'extase divine dans laquelle l'âme s'élevait jusqu'au Seigneur et se confondait en lui. Il n'y avait dans ces supplications passionnées de l'esprit dégagé de la matière qu'un mélange d'égoïsme. André s'abandonnait en quelque sorte elle-même, pareil au naufragé qui a perdu l'espoir et qui ne prie plus pour lui, mais pour sa femme et ses enfants, destinés à devenir orphelins. Cette douleur intime était née à André depuis le départ de son frère, et pourtant la douleur n'était pas sans mélange. Comme la prière, elle se composait de 2 éléments distincts, dont l'un n'était pas bien intelligible pour la jeune fille. C'était comme un pressentiment, comme l'approche perceptible d'un malheur prochain. C'était une sensation analogue à celle des élancements d'une blessure cicatrisée. La douleur continue s'est éteinte, mais le souvenir en survit longtemps et avertit de la présence du mal, comme le faisait autrefois la blessure elle-même. André n'essaya pas même de se rendre compte de ce qu'elle éprouvait. Tout entière au souvenir de Philippe, elle ramena sur ce frère chéri la totalité des impressions qui l'agitaient. Ensuite, elle se releva, se choisit un livre parmi ceux qui garnissaient sa modeste bibliothèque, plaça sa bougie à portée de sa main et se mit au lit. Le livre qu'elle avait choisi, ou plutôt qu'elle avait pris au hasard, était un dictionnaire de botanique. Ce livre, on le comprend, n'était point fait pour absorber son attention, il l'engourdit au contraire. Bientôt un nuage, transparent d'abord, mais qui allait s'épaississant, s'étendit sur sa vue. La jeune fille lutta un instant contre le sommeil, ressaisit deux ou trois fois sa pensée fugitive, puis, en avançant la tête pour souffler la bougie, elle aperçut le verre d'eau préparé par Nicole. Elle étendit le bras, le prit d'une main, de l'autre remua, à l'aide de la cuillère, le sucre à moitié fondu, et déjà sous la pression du sommeil, elle approcha le verre de sa bouche. Tout à coup, et comme ses lèvres allaient toucher la liqueur, une commotion étrange fit trembler sa main. Un pas lourd et humide à la fois tomba sur son cerveau, et André reconnut, avec terreur, aux élans du fluide qui courait sur ses nerfs, cette invasion surnaturelle de sensations inconnues qui, plusieurs fois, avait triomphé de ses forces et brisé sa raison. Elle n'eut que le temps de reposer le verre sur l'assiette et, presque aussitôt, sans autre plainte qu'un soupir échappé à sa bouche entr'ouverte, elle perdit l'usage de la voix, de la vue, de l'intelligence et tomba, comme foudroyée, sur le lit, en proie à une torpeur mortelle. Mais cette espèce d'anéantissement ne fut que le passage momentané d'une existence à une autre. De morte qu'elle l'était avec ses yeux qui semblaient fermés pour toujours, elle se leva tout à coup, ouvrit les yeux avec une fixité effrayante, et, comme une statue de marbre qui descendrait de son tombeau, elle descendit de son lit. Il n'y avait plus à en douter, André dormait de ce sommeil merveilleux qui, plusieurs fois déjà, avait suspendu sa vie. Elle traversa la chambre, ouvrit la porte vitrée et déboucha dans le corridor avec cette attitude rigide et ferme d'un marbre animé. L'escalier se présenta devant elle et fut descendu marche à marche, sans hésitation, sans précipitation, puis André apparut sur le perron. Comme André mettait le pied sur la plus haute marche pour descendre, Gilbert mettait le pied sur la plus basse pour monter. Gilbert vit donc cette femme blanche et solennelle s'avancer comme si elle venait au-devant de lui. Il recula devant elle et alla, reculant toujours, s'enfoncer dans une charmille. C'était ainsi, il se le rappelait, qu'il avait déjà vu André au château de Tavernet. André passa devant Gilbert, l'effleura même et ne le vit pas. Le jeune homme, écrasé et perdu, se laissa tomber sur son mollet replié sous lui. Il avait peur. Ne sachant à quoi attribuer cette étrange sortie d'André, il la suivait des yeux. Mais sa raison était confondue, mais son sang battait avec impétuosité ses tempes, mais il était plus près de la folie que de ce froid bon sens qu'il faut à l'observateur. Il demeura donc accroupi sur l'herbe au milieu des feuilles, et guettant comme il faisait depuis que ce fatal amour était entré dans son cœur. Tout à coup, le mystère de cette sortie lui fut expliqué. André n'était ni folle ni égarée comme il le croyait. André, de ce pas froid et sépulcral, allait à un rendez-vous. Un éclair venait de sillonner le ciel. Gilbert, à la lueur bleuâtre de cet éclair, vit un homme caché sous la sombre avenue des tilleuls, et si rapide qu'eût été la flamme d'orage, il avait vu se détacher sur le fond noir son visage pâle et ses vêtements en désordre. André marchait vers cet homme qui tenait un bras étendu comme pour l'attirer à lui. Quelque chose comme une morsure d'un fer rouge mordit le cœur de Gilbert et le fit se redresser sur ses genoux pour mieux voir. En ce moment, un autre éclair passa dans la nuit. Gilbert reconnut Balsamo, couvert de sueur et de poussière. Balsamo, qui, à l'aide de quelque mystérieuse intelligence, avait pénétré dans Trianon. Balsamo, enfin, qui attirait André à lui aussi invinciblement, aussi facilement que le serpent attire l'oiseau. À deux pas de lui, André s'arrêta. Il lui prit la main. André tressaillit de tout son corps. « Voyez-vous ? » dit-il. « Oui, répondit André, mais en m'appelant ainsi, vous avez failli me tuer. » Pardon, pardon, répondit Balsamo, mais ce que j'ai la tête perdue, c'est que je ne m'appartiens plus, c'est que je deviens fou, c'est que je me meurs.
En effet, vous souffrez, dit André, averti de la souffrance de Balsamo par le contact de sa main.
Oui, oui, je souffre, et je viens chercher la consolation près de vous. Vous seul pouvez me sauver.
Interrogez-moi. Une seconde fois, voyez-vous.
Oh, parfaitement.
Voulez-vous me suivre chez moi, le pouvez-vous?
Je le puis, si vous voulez me conduire par la pensée.
Venez.
Ah, dit André, nous entrons dans Paris, nous suivons le boulevard, nous nous enfonçons dans une rue qui n'est éclairée que par une seule lanterne.
C'est cela, entrons, entrons.
Nous sommes dans une antichambre, il y a un escalier à droite, mais vous m'entraînez vers le mur.
Ah, le mur s'ouvre, des escaliers se présentent.
Montez, montez, s'écria Balsamo, c'est notre chemin.
Ah, nous voici dans une chambre, il y a des pots de lion, des armes.
Tiens, la plaque de la cheminée s'ouvre.
Passons, où êtes-vous?
Ah, dans une chambre singulière, dans une chambre sans issue, dont les fenêtres sont grillées.
Oh, comme tout est en désordre dans cette chambre.
Mais vide, vide, n'est-ce pas?
Vide.
Pouvez-vous voir la personne qui l'habitait?
Oui, si l'on me donne un objet qui l'ait touché, qui vienne d'elle ou qui lui appartienne.
Tenez, voici de ses cheveux.
André prit les cheveux et les approcha de sa personne.
« Oh, je la reconnais, dit-elle, j'ai déjà vu cette femme, elle fuyait vers Paris. »
« C'est cela, c'est cela. Pouvez-vous me dire ce qu'elle a fait depuis 2 heures et comment elle s'est enfuie ?»«
Attendez, attendez, oui. Elle est couchée sur un sofa, elle a la poitrine à moitié nue avec une blessure au-dessous du sein. »
« Voyez, André, voyez, ne la quittez plus. »
Elle était endormie, elle se réveille, elle cherche autour d'elle, elle tire un mouchoir, elle monte sur une chaise, elle attache le mouchoir au barreau de sa fenêtre.
Oh mon Dieu!
Elle veut donc mourir réellement?
Oui, oui, elle est décidée, mais cette mort l'épouvante. Elle laisse le mouchoir attaché au barreau.
Descends. Ah, pauvre femme!
Quoi?
Oh, comme elle pleure, comme elle souffre, comme elle se tord les bras!
Elle cherche un angle de muraille où se briser le front.
« Oh, mon Dieu !» murmura Balsamo.
« Oh, elle s'élance contre la cheminée.
Ah, la cheminée représente 2 lions de marbre. Elle va se briser le front contre la tête du lion.
Après, après, voyez, André, voyez, je le veux !»
Elle s'arrête.
Balsamo respira.
Elle regarde.
« Que regarde-t-elle ? » demanda Balsamo.
Elle a aperçu du sang sur l'œil du lion.
« mon Dieu !» murmura Balsamo.
« Oui, du sang, et cependant, elle n'est pas frappée.
Oh, c'est étrange, ce sang, ce n'est pas le sien, c'est le vôtre. »«
Ce sang est le mien !» s'écria Balsamo, ivre d'égarement.
« Oui, le vôtre, vous vous êtes coupé les doigts avec un couteau, avec un poignard, et vous avez appuyé votre doigt ensanglanté sur l'œil du lion.
Oh, « je vous vois.
Ah, c'est vrai, mais comment s'enfuit-elle »«
Attendez, attendez, je la vois examiner ce sang, réfléchir, et puis appuyer son doigt où vous avez appuyé le vôtre.
Ah, l'œil du lion cède, un ressort agit, la plaque de la cheminée s'ouvre. »
« Imprudent, s'écria Balsamo, malheureux imprudent, malheureux fou que je suis, je me suis trahi moi-même. »«
Et elle sort, continua Balsamo, elle fuit. »«
Oh, il faut lui pardonner à la pauvre femme, elle était bien malheureuse. »«
Où va-t-elle? Où va-t-elle? Suivez-la, André, je le veux. »
Attendez, elle s'arrête un instant dans la chambre aux armes et aux fourrures. Une armoire est ouverte. Une cassette, ordinairement fermée dans cette armoire, est posée sur une table. Elle reconnaît la cassette et la prend.
Que contient cette cassette ?
Vos papiers, je crois.
Comment est-elle ?
Recouverte de velours bleu avec des clous d'argent, des fermoirs d'argent, une serrure d'argent.
« Oh !» dit Balsamo, frappant du pied avec colère, « c'est donc elle qui a pris cette cassette !»
Oui, c'est elle. Elle descend l'escalier qui donne dans l'antichambre. Elle ouvre la porte, elle tire la chaîne, qui fait ouvrir la porte de la rue. Elle sort. Est-il bien tard? Il doit être tard car il fait nuit. Ah, tant mieux. Elle sera partie peu de temps avant mon retour et j'aurai le temps de la rejoindre peut-être. Suivez-la, André, suivez-la. Une fois hors de la maison, elle court comme une folle, comme une folle. Elle gagne le boulevard, elle court sans s'arrêter. De quel côté? Du côté de la Bastille. Vous la voyez toujours? Oui, elle est comme une insensée, elle se heurte aux passants. Elle s'arrête enfin, elle cherche à savoir où elle est, elle l'interroge. Que dit-elle? Écoutez, André, écoutez, au nom du ciel, ne perdez pas une de ses paroles. Vous avez dit qu'elle interrogeait. Oui, un homme vêtu de noir. Que lui demande-t-elle? Elle lui demande l'adresse du lieutenant de police. Ah, ce n'était donc pas une vaine menace. La lui donne-t-on? Oui. Que fait-elle? Elle revient sur ses pas, elle prend une rue qui va en biais, elle passe sur une grande place. La place royale, c'est le chemin. Lisez-vous dans son intention? Courez-vous, courez vite, elle va vous dénoncer. S'il arrive avant vous, si elle voit Monsieur de Sartine, vous êtes perdu. Balsamo poussa un cri terrible, s'élança dans le taillis, franchit une petite porte qu'ouvrit et referma une espèce d'ombre. D'un bond, il sauta sur son cheval, Djérit, qui battait la terre près de la porte. L'animal, aiguillonné à la fois par la voix et par l'éperon, partit comme une flèche dans la direction de Paris. Et l'on n'entendit plus que le froissement des pavés sur lesquels il volait. Quant à André, elle était demeurée froide, muette, pâle et debout. Mais comme si Balsamo eût emporté sa vie avec lui, elle s'affaissa bientôt sur elle-même et tomba. Balsamo, dans son empressement à poursuivre Lorenza, avait en effet oublié de réveiller André. André ne s'affaissa point, ainsi que nous l'avons dit, tout d'un coup, mais avec des gradations que nous allons essayer de décrire. Seul, abandonné, saisi de ce froid intérieur qui succède à toutes les furieuses secousses du système nerveux, André commença bientôt à chanceler et à tressaillir, comme au début d'une attaque d'épilepsie. Gilbert était toujours là, raide, immobile, penché en avant et la couvant du regard. Mais pour Gilbert, on le comprend bien, pour Gilbert, ignorant les phénomènes magnétiques, il n'y avait ni sommeil, ni violence subie. Il n'avait rien ou presque rien entendu de son dialogue avec Balsamo. Pour la seconde fois seulement, à Trianon comme à Tavernet, André paraissait avoir obéi à l'appel de cet homme, qui avait pris sur elle une si terrible et si étrange influence. Pour Gilbert, enfin, tout se résumait dans ces mots: Mademoiselle André a un amant, du moins un homme qu'elle aime et avec lequel elle a des rendez-vous la nuit. Le dialogue qui avait eu lieu entre André et Balsamo, quoique prononcé à voix basse, avait eu tous les semblants d'une querelle. Balsamo, fuyant, insensé et perdu, semblait un amant au désespoir. André, demeurée seule, immobile, muette, semblait une amante abandonnée. Ce fut en ce moment qu'il vit la jeune fille vaciller, se tordre les bras et tourner sur elle-même. Puis elle poussa deux ou trois râlements sourds qui déchirèrent sa poitrine oppressée. Elle s'efforça, ou plutôt la nature s'efforça, de rejeter au dehors cette masse mal pondérée de fluide qui lui avait donné, pendant le sommeil magnétique, cette double vue dont nous avons, dans le chapitre précédent, vu se manifester les phénomènes. Mais la nature fut vaincue, mais André ne put réussir à secouer ce reste de volonté oublié sur elle par Balsamo. Elle ne put dénouer ces liens mystérieux, inextricables, qui l'avaient garrottée tout entière, et à force de lutter, elle entra dans ces convulsions qu'autrefois les pitis sur le trépied subissaient devant le peuple de questionneurs religieux qui bourdonnaient sur le péristyle du temple. André perdit l'équilibre et, poussant un douloureux gémissement, tomba sur le sable, comme si elle eût été foudroyée par le coup de tonnerre qui, en ce moment, déchira la voûte du ciel. Mais elle n'avait pas touché le sol que Gilbert, avec l'agilité et la vigueur du tigre, s'était élancé vers elle, l'avait saisie entre ses bras, et sans s'apercevoir qu'il eût un fardeau à soutenir, l'emportait dans la chambre qu'elle avait quittée pour obéir à l'appel de Balsamo, et dans laquelle brûlait encore la bougie près du lit des fées. Gilbert trouva toutes les portes ouvertes, comme les avait laissées André. En entrant, il se heurta au sofa et y déposa tout naturellement la jeune fille, froide et inanimée. Tout était devenu fièvre en lui au contact de ce corps inanimé. Ses nerfs étaient frémissants, son sang brûlait. Sa première idée, cependant, fut chaste et pure. Il lui fallait avant tout rappeler à la vie cette belle statue. Il chercha des yeux la carafe pour jeter quelques gouttes d'eau sur le visage d'André. Mais en ce moment, et comme sa main tremblante s'étendait vers le col élancé de l'aiguillère de cristal, il lui sembla qu'un pas ferme et léger à la fois faisait crier l'escalier de bois et de briques qui conduisait à la chambre d'André. Ce n'était point Nicole, puisque Nicole s'était enfuie avec monsieur de Beaucire. Ce n'était point Balsamo, puisque Balsamo était parti au grand galop de Djérite. Ce ne pouvait être qu'un étranger. Gilbert, surpris, serait chassé. André était pour lui comme ces reines d'Espagne qu'un sujet ne peut toucher, même pour leur sauver la vie. Toutes ces idées, pareilles à un tourbillon de grêle stridente, s'abattirent sur l'esprit de Gilbert en moins de temps que n'en mit ce pas fatal à se poser sur un autre degré. Ce pas qui allait se rapprochant, Gilbert n'en pouvait calculer l'éloignement précis, tant l'orage faisait en ce moment du bruit au ciel. Mais doué d'un sang-froid et d'une puissance supérieure, le jeune homme comprit que sa place n'était point là, et que l'important, avant toute chose, était de n'être point vu. Il souffla vite la bougie qui éclairait l'appartement d'André et se jeta dans le cabinet qui servait de chambre à Nicole. Ainsi placé, à travers la porte vitrée de ce cabinet, il voyait à la fois et dans l'appartement d'André et dans l'antichambre. C'est dans cette antichambre que brûlait une veilleuse sur une petite console. Gilbert avait d'abord eu l'idée de la souffler comme la bougie, mais il n'en eut pas le temps. Le pas cria sur les carreaux du corridor, une respiration un peu oppressée se fit entendre, la forme d'un homme apparut sur le seuil, se glissa timidement dans l'antichambre et repoussa la porte, qu'il ferma au verrou. Gilbert n'eut que le temps de se jeter dans le cabinet de Nicole et de tirer sur lui la porte vitrée. Gilbert retint son souffle, colla son visage aux vitres et écouta de toutes ses oreilles. L'orage grondait solennellement dans les nuées, de grosses gouttes de pluie battaient le vitrage de la fenêtre d'André et celui du corridor, où une fenêtre laissée ouverte grinçait sur ses gonds, et de temps en temps, repoussée par le vent qui s'engouffrait dans le corridor, frappait avec un grand bruit dans son cadre. Mais le tumulte de la nature, mais les bruits extérieurs, si terribles qu'ils fussent, n'étaient rien pour Gilbert. Toute sa pensée, toute sa vie, toute son âme étaient concentrées dans son regard, et ce regard était rivé à cet homme. Cet homme avait traversé l'antichambre, avait passé à deux pas de Gilbert, et sans hésitation était entré dans la chambre. Gilbert vit cet homme aller en tâtonnant au lit d'André, faire un geste de surprise en trouvant le lit désert, et presque aussitôt heurter du bras la bougie sur la table. La bougie tomba, et sous le marbre de la table, Gilbert entendit se briser la bobèche de cristal. Alors par deux fois, l'homme appela d'une voix étouffée « Nicole ! Nicole !» « Comment, Nicole ?» se demanda Gilbert du fond de sa cachette. « Pourquoi cet homme, lorsqu'il devrait appeler André, appelle-t-il Nicole ?» Mais, nulle voix n'ayant répondu à la sienne, cet homme ramassa le flambeau à terre et sur la pointe du pied, il alla l'allumer à la veilleuse de l'antichambre. Ce fut alors que Gilbert concentra toute son attention sur cet étrange et nocturne visiteur. Ce fut alors que ses yeux eussent percé un mur tant il mettait d'active volonté à voir. Tout à coup, Gilbert frissonna, et tout caché qu'il était, fit un pas en arrière. À la lueur des deux flammes se combinant, Gilbert, frissonnant et à demi-mort de stupeur, Gilbert, dans cet homme qui tenait le flambeau à la main, venait de reconnaître le roi. Alors tout lui fut expliqué, la fuite de Nicole, cet argent comptant entre les beaux sires et cette porte laissée ouverte, et tout Richelieu et tout Avernet, et toute cette mystérieuse et sinistre intrigue dont la jeune fille était le centre. Alors Gilbert comprit pourquoi le roi venait d'appeler Nicole, entremetteuse du crime, complaisant Judas qui avait vendu et livré sa maîtresse. Mais à la pensée de ce qu'était venu faire le roi dans cette chambre, à la pensée de ce qui allait se passer devant lui, le sang monta aux yeux de Gilbert et l'aveugla. Il eut envie de crier, mais la peur, ce sentiment irréfléchi, capricieux, irrésistible, la peur qu'il eut de cet homme, encore plein de prestige, que l'on appelait le roi de France, lia la langue de Gilbert au fond de son gosier. Louis XV, cependant, était entré dans la chambre, la bougie à la main. À peine y était-il qu'il aperçut André, en peignoir de mousseline blanche. André, plutôt nu qu'enveloppé, dont la tête reposait sur le dossier du sofa, dont une jambe reposait sur le coussin, tandis que l'autre, raidie et déchaussée, retombait sur le tapis. Le roi sourit à cette vue. La bougie éclaira ce sourire lugubre, et presque aussitôt un sourire presque aussi sinistre que le sourire royal vint illuminer le visage d'André. Louis XV murmura quelques mots que Gilbert interpréta comme des mots d'amour, et posant son flambeau sur la table, jetant, en se retournant, un coup d'œil au ciel enflammé, il vint s'agenouiller devant la jeune fille dont il baisa la main. Gilbert essuya la sueur ruisselant de son front. André ne bougea pas. Le roi, qui sentit cette main glacée, la prit dans la sienne pour la réchauffer, et de son autre bras, enveloppant ce corps si beau et si doux, il se pencha pour murmurer à son oreille quelques-unes de ces cajoleries amoureuses qu'on murmure à l'oreille des jeunes filles endormies. Dans ce moment, son visage se rapprocha d'André au point que le visage du roi effleura celui de la jeune fille. Gilbert se tâta et respira en sentant dans la poche de sa veste le manche d'un long couteau qui lui servait à émonder les charmilles du parc. Le visage était glacé comme la main. Le roi se releva. Ses yeux se portèrent sur ce pied nu d'André, blanc et petit comme celui de Cendrillon. Le roi le prit entre ses deux mains et tressaillit. Ce pied était froid comme celui d'une statue de marbre. Gilbert, que tant de beauté découverte à ses regards, Gilbert, que la luxure royale menaçait comme d'un vol fait à lui-même, Gilbert grinça des dents et ouvrit le couteau que jusque-là il avait tenu fermé. Mais déjà le roi avait abandonné le pied d'André, comme il avait fait de la main, comme il avait fait du visage, et surpris du sommeil de la jeune fille, sommeil qu'il avait attribué d'abord à une coquette pruderie, il cherchait à se rendre compte de ce froid mortel qui avait envahi les extrémités de ce beau corps. Il se demandait si réellement battait encore le cœur quand mains, pieds et visage étaient si glacés. Il écarta donc le peignoir d'André, mit à nu sa poitrine virginale, et de sa main craintive, mais cynique à la fois, il interrogea le cœur muet sous cette chair glacée, comme l'albâtre dont elle avait la blanche et ferme rondeur. Gilbert se glissa à demi hors de la porte, son couteau à la main, l'œil étincelant, les dents serrées, résolu, si le roi continuait ses entreprises, à le poignarder et à se poignarder lui-même. Tout à coup, un effroyable coup de tonnerre fit trembler chaque meuble de la chambre et jusqu'au sofa devant lequel Louis XV s'était agenouillé. Un nouvel éclair violet et soufré jeta sur le visage d'André une flamme si livide et si vive que Louis XV, effrayé de cette pâleur, de cette immobilité, de ce silence, recula en murmurant « Mais en vérité, cette fille est morte !» Au même moment, l'idée d'avoir embrassé un cadavre fit courir un frisson dans les veines du roi. Il alla prendre la bougie, revint vers André en la regardant à la lueur de la flamme tremblante. Voyant ses lèvres violettes, ses yeux noyés de bistre, ses cheveux épars, cette gorge que nul souffle ne soulevait, il poussa un cri, laissa tomber son flambeau, chancela, et comme un homme ivre, il s'en alla trébuchant dans l'antichambre, aux cloisons de laquelle il se heurta dans son épouvante. Puis on entendit son pas précipité dans l'escalier, puis sur le sable du jardin. Mais bientôt le vent qui tourbillonnait dans l'espace et tordait les arbres désolés emporta bruit et pas dans son orageuse et puissante haleine. Alors Gilbert, le couteau à la main, sortit, muet et sombre, de sa cachette. Il s'avança jusqu'au seuil de la chambre d'André et contempla pendant quelques secondes la belle jeune fille plongée dans son sommeil profond. Pendant ce temps, la bougie couchée à terre brûlait, renversée sur le tapis, éclairant le pied si délicat et la jambe si pure de cet adorable cadavre. Gilbert ferma lentement son couteau, tandis que son visage prenait insensiblement le caractère d'une inexorable résolution. Après quoi, il alla écouter à la porte par laquelle le roi était sorti. Il écouta plus d'une grande minute. Puis, à son tour, comme le roi avait fait, il ferma la porte et poussa le verrou. Puis, il souffla la veilleuse de l'antichambre. Puis enfin, avec la même lenteur, avec le même feu sombre dans les yeux, il rentra dans la chambre d'André et mit le pied sur la bougie qui coulait à flots sur le parquet. Une obscurité subite éteignit le fatal sourire qui se dessina sur ses lèvres. « André, André, murmura-t-il, je t'ai promis que la troisième fois que tu tomberais entre mes mains, tu ne m'échapperais pas comme les deux premières. André, André, au terrible roman que tu m'as accusé de faire, il faut une terrible fin !» Et les bras tendus, il marcha droit au sofa où André était étendu, toujours froide, immobile et privé de tout sentiment.